Chers frères et sœurs et chers amis, cette série, elle est composée de 7 études et elle est prévue pour tous ceux qui ont à cœur d'aider les autres, c'est-à-dire leurs prochains. Et ceci est donc, pour commencer, l'étude numéro 1. Chers amis, peut-être êtes-vous, es-tu, ma sœur ou mon frère, celui, celle, sur qui le Seigneur réfléchit et à qui il dit « Accompagne mes agneaux ». Et c'est pour cela que je parle donc pour tous ceux qui sont prêts à obéir au Seigneur et cherchent et qui vont aider à sauver les âmes perdues. Alors si tu écoutes ce message pour te sauver toi-même, tu peux passer par-dessus ce chapitre. Ou alors, tu peux continuer à écouter si ça te plaît. Mais n'oublie pas que ceci est destiné à celui qui se préoccupe de ton âme et non pas à toi-même égoïstement. Aussi, pardonne-lui s'il ne suit pas exactement ce modèle, car il se peut qu'il connaît un meilleur chemin qui lui convient mieux et où ses talents sont plus développés. Ce qui va suivre ne doit pas être vu en tant qu'absolu, mais comme une simple suggestion, toute issue d'expériences personnelles. Et garde donc ce qui te paraît utile et oublie tout simplement le reste. Il faut d'abord savoir reconnaître qui a le plus besoin de nos prières et des bénédictions de Dieu. Il est aussi important que nous ne nous concentrions pas uniquement sur la famille et les amis. Bien sûr que l'on veut aider nos amis, mais le besoin des autres, oui, ceux qui nous sont moins proches, ils sont aussi nos amis, car nous sommes tous des enfants de Dieu, et sans doute bien plus grands encore. Il est donc plus facile d'aider un ami qu'un étranger. Comment trouve-t-on un tel inconnu? Eh bien, si l'on est prêt à obéir au Seigneur, on le trouvera et on aura autant de compassion que Jésus-Christ en a eu. Note Saint Matthieu, chapitre 14, verset 14. Une petite coiffeuse japonaise de Honolulu, elle parlait avec grand plaisir de ses prières et bénédictions pour ses clients. Elle disait « Je vois tout de suite si vous avez des problèmes. » Et c'est ce qu'elle disait à ses clients, et ceci à l'étonnement général. Je ne sais pas exactement comment cette coiffeuse fait pour reconnaître les esprits maléfiques chez ses clients. Mais je sais comment, moi, je les reconnais. Je les regarde simplement avec des yeux pleins de compassion. J'ai eu fait allusion comment une femme dont la dépression, la conduite presque jusqu'au crime, a pu être guérie par ses prières. Lorsque elle essaya une robe, sa conseillère lui dit « Vous avez l'air tellement malheureuse et je crois que je peux vous aider. » Ce qui était d'abord important, c'est que cette bienveillante femme, elle voyait, et ensuite elle lui parla d'une manière sérieuse et directe, si bien que le cœur de la malheureuse a pu être gagné. Elle ne dit pas « Dieu veut vous aider ». ce qui n'aurait fait que accroître sa susceptibilité et sa critique. Mais elle dit simplement « Je veux vous aider ». Je répète « Je veux vous aider ». Et cette forme directe de contact est donc très importante. Ceux qui se préoccupent des âmes aiment à dire « Dieu veut vous aider ». Ne le dis jamais de cette manière. Mais si tu le prends très au sérieux, parce que pour les autres, eh bien, cela ressemble un peu trop à l'habituel duquel ils se méfient de nos jours, évidemment. Car pendant des années, ils ont supplié Dieu de les aider, mais rien n'est arrivé. Alors, dis ce qui serait peut-être mieux. Dis simplement, je peux vous aider. Je peux vous aider. Cela n'a rien à voir avec l'humilité ou la modestie. La véritable humilité, c'est lorsque l'on pense tellement à l'autre jusqu'à l'oubli de soi-même. Alors la question ne se pose même pas si l'on parle de cette sorte-là. Car au moment même où l'on se penche sur son humilité, on l'a déjà perdue. Il est aussi important pour la personne déprimée de lui montrer qu'on la prend au sérieux. Car ici se trouve le danger de vouloir la rendre plus joyeuse en mettant un masque qui dégage de la fausse joie. Je veux vous assurer qu'une tape sur l'épaule ou un petit sourire ne remonte pas forcément, aucun cas, le moral de quelqu'un qui serait passablement déprimé. Il a probablement souvent vécu ces petits gestes, ces gestes d'aide. Mais lorsque le déprimant davantage, voyez-vous, lorsque la personne elle déprime encore plus, pour la raison qu'il ou elle ne peut pas participer à cette joie de vivre, eh bien, cet essai de lui remonter le moral, lui ou pour elle, montre seulement que tu vis dans un autre monde et ne le comprends pas vraiment, lui ou elle. Alors, dis simplement, je peux vous aider. Je peux vous aider. Et voilà quelque chose de tout à fait nouveau. Cela lui fait comprendre qu'il y a encore de l'espoir et que tu t'intéresses vraiment à lui ou à elle. De cette manière, un lien se construit entre vous. Il est inévitable que tu doives peut-être encore l'aider un peu jusqu'à ce que il ou elle vienne de lui-même. La personne qui a le plus besoin d'aide est probablement la dernière à venir la chercher. Et c'est pour cela, invite-la chez toi, mais ne la suis pas jusque chez elle. Car si elle vient chez toi, cela prouve sa confiance, et c'est déjà une aide en dehors du fait que tu te consacres uniquement à sa personne. Que doit-on faire si une personne déprimée vient à vous? D'abord, il faut essayer de la mettre en confiance afin qu'elle puisse être guérie. Pour la guérison du corps, on peut aisément parler de la force de guérison de Dieu. Mais chez une dépressive, je ne crois pas que ce soit le meilleur moyen, car on est encore trop éloigné de ses problèmes. Je lui parle alors de mes problèmes, je ne veux pas gagner absolument sa sympathie par la, disons, par la même, mais bien au contraire, si l'on peut dire ainsi, en parlant de mes heures noires, car j'en ai aussi, alors je lui fais part que j'ai vécu, vraiment vécu de tels moments, comme elle, comme lui, et peut donc comprendre cette personne, parce que j'y ai aussi passé. Par exemple, vous avez l'air d'avoir vécu la même chose que moi, il y a quelque temps de cela, et ce fut même horrible. J'ai eu peur, jour et nuit, je ne savais même pas de quoi. Je n'osais plus aller à la fenêtre, j'aurais eu si peur de sauter en bas. Et chaque fois que je devais utiliser un couteau, eh bien c'était pareil pour moi. Et l'autre dira, avec surprise, eh bien moi aussi. Les pensées les plus folles me traversaient l'esprit, elles n'étaient pas belles et encore moins raisonnables. Et l'autre personne répond, exactement comme moi. Et quand j'essayais de me changer les idées avec la télé ou peut-être le cinéma, ça allait un peu mieux momentanément seulement, mais déjà peu de temps après, je me sentais pire qu'avant. Et l'autre personne, elle dit, oui, exactement comme dans mon cas. Et tout le monde disait, allez, ne te laisse pas aller ainsi, tu dois te contrôler. Mais si on essaye, c'est encore bien pire. C'est comme du sable mouvant où l'on s'enfonce lentement mais sûrement. Mais voyons, vous y êtes arrivé comment ? Demande la personne. Eh bien, que j'y sois arrivé est déjà clair, très clair pour le déprimé. Oui, j'ai appris certaines choses simples qui m'ont vraiment aidé. Il est venu quelqu'un qui s'y connaissait et qui m'a tiré de ce pétrin. Il mit tout simplement ses mains sur ma tête et il pria pour moi. Je répète, donc cette phrase importante, il est venu quelqu'un, ça peut être une femme, un homme, qui s'y connaissait et qui m'a tiré de ce pétrin-là. Il ou elle a mis ses mains sur ma tête et a prié pour moi. Je sais bien que ça a l'air bête, mais c'est exactement ce qu'il a fait. Cela m'a vraiment aidé. Je peux faire, si vous voulez bien, la même chose sur vous. C'est la raison pour laquelle je vous ai invité chez moi. Auriez-vous quelque chose contre cela ? Par exemple, si j'essaye une seule fois ? Et sur cette question, quelqu'un m'avait une fois dit « Je crois à chacune de vos paroles et je ferai tout ce que vous me direz parce que vous êtes la seule personne qui comprenne mes angoisses. » Il se peut que la personne concernée dise aussi « Mais je n'ai pas de foi, je n'ai pas la foi comme vous. » Eh bien, Dieu soit loué, le plus fort peut aider le plus faible et l'on peut donc renforcer l'autre avec notre foi. Dites par exemple ceci, « Ce n'est pas grave, ma foi que j'ai en Dieu, elle va suffire pour deux. » Et c'est tout à fait normal, car ce serait trop demandé pour le moment. Jésus-Christ ne désirait-il pas que nous ayons tous la foi ? Eh bien, à la lecture de la Sainte Bible, on peut constater que Jésus-Christ ne demande pas du tout d'avoir la foi à tous ceux qui ont l'esprit un peu dérangé ou tourmenté. il ne demanda pas à la fille de Jaïrus, ou par exemple au fils du commandant, ou encore au possédé de Gadara, d'avoir la foi. Il a pris la force, la puissance de Dieu dans sa main, et il a dit les mots de la foi à leur place. Et cela, nous le pouvons aussi, chers amis, en lui insufflant par notre corps et notre âme la lumière et la vie de Dieu. Aussi pour cela, l'imposition des mains est très importante. Un curé n'a pas besoin d'expliquer ce geste, mais en retour, les gens l'attendent de lui. Aussi, si l'Église a pu oublier ce geste pendant la prière, comme il était de coutume, ce geste est tellement simple et normal que celui pour qui l'on prie ne le trouve point bizarre du tout. Beaucoup d'hommes voient instinctivement en celui qui se préoccupe de leur âme un intermédiaire entre eux et Dieu. En tant que tel, il est salutaire et défini. Les hommes ont besoin d'un intermédiaire. Ils le savent très bien. Au profond de leur cœur, ils le savent, indépendamment de ce que l'Église peut dire. Car si la peine est grande, il l'accepte très volontiers. Par la suite, j'explique ce que je fais. Je me tiendrai derrière vous, c'est ce que je dis. Je me tiendrai derrière vous si vous n'avez rien contre. Et j'imposerai mes mains sur votre tête. C'est comme ça que c'est le mieux. Je n'essaye pas d'expliquer comment la vie et la lumière se manifestent en la personne, car leur esprit alourdi ne le comprendrait pas encore et ne leur explique pas non plus qu'au même moment où mes mots arrivent à leur conscience, la parole de Dieu a passé à travers mon corps et à travers mes mains, jusqu'à leur âme et esprit. Je ne pense pas continuellement à cela, mais je prie le plus simplement possible, des mots tout simples, comme un enfant qui s'adresse à son papa ou à sa maman. Je prie donc le Seigneur d'entrer en cette personne et de guérir son âme et son esprit pour rétablir la personnalité originelle. Mes mots ont un effet qui déclenche un comportement d'attente, de merci et d'espoir que Dieu arrive réellement et qu'il guérit leur âme et leur esprit. Devrais-je ne pas le remercier pour cela? La guérison de l'âme n'est-elle pas le sens du sacrifice du sang à Golgotha? N'est-elle pas sa volonté et de ce fait aussi la volonté de Dieu? Qu'est-ce qui pourrait l'en empêcher? Il guérit les corps autant que les âmes, et je suis certain que c'est cela, tout cela, c'est sa volonté. Mais comme la vie est remplie de problèmes où le péché domine et que le royaume de Dieu est tellement éloigné de notre propre monde, il peut arriver que la guérison du corps ne réussit pas toujours. Alors en retour, l'âme, l'esprit sera toujours guéri tout de même. Même si une personne devait mourir dans les 24 heures, il est d'une extrême richesse et d'importance que l'âme et son esprit soient emplis de la lumière de Dieu et ne restent pas emprisonnés dans les ténèbres. Et c'est pour cela que je remercie Dieu encore et encore. Ainsi mon âme comprend cette vérité et réagit en fonction. Je montre en image à mon esprit comment la personne souffrante sera quand elle sera guérie. Et je remercie Dieu pour cette image. Oh oui, merci Maître. Lorsque elle s'éveillera de son cauchemar, elle verra le monde autour d'elle et il sera beau. Elle verra ses enfants et se rendra compte du plaisir qu'ils lui procurent et pourra à nouveau se réjouir d'eux au lieu de s'énerver contre eux. Elle s'intéressera aux autres et au travail dans la communauté. Lorsque la prière est terminée, je finis notre entrevue le plus vite possible pour que l'effet recherché ne se perde pas en route. Ne réfléchissez pas sur ce qui se passe en vous à ce moment. Si l'on plante quelque chose, on ne le déterre pas non plus sans arrêt, juste par exemple pour voir si cela a déjà pris racine. Ceci est le germe d'une nouvelle vie qui va donc grandir. Souvent, rien qu'en parlant déjà, on voit la lumière d'une nouvelle vie dans les yeux de l'autre. Oui, on ne le fait pas remarquer, et cela pourrait évidemment choquer. Et certaines fois, eh bien, la personne subjuguée par ses pensées demandera, oublions qu'elle n'a pas la foi. Voyons, de quelle manière puis-je prier pour moi maintenant? Alors je lui réponds, pas au début, car cela pourrait être trop pour vous. Laissez-moi d'abord porter un moment vos peines et revenez quand vous le souhaitez. Dans un sens, tu portes son fardeau maintenant, car tu pries tous les jours, oui, tous les jours, pour cette personne, jusqu'à ce qu'elle puisse le faire elle-même. Mais ne te laisse pas quand même écraser par ce fardeau, surtout pas, et réalise qu'en fin de compte, la responsabilité repose d'abord sur ses épaules à elle, à lui, et non pas sur toi-même, car sans cela, le poids du fardeau te submergera vraiment et tu vas même perdre tes forces. Donc, pense aux paroles de Jésus-Christ tout simplement. Qu'est-ce qu'il a dit dans Saint Matthieu au chapitre 16, verset 24? Il a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, je répète, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Saint Matthieu 16, verset 24. Mais quelle est notre croix? Supporter les maladies de nos vices parce que nous sommes bien trop fainéants pour les surmonter en esprit. Ou alors la nuit noire dans nos âmes, pour qu'on s'accroche et qu'on s'occupe d'elle et de toutes nos questions, de nos réponses personnelles. Quelle est alors notre croix à nous? Certainement cela. Porter les fardeaux, est-il dit dans Galates chapitre 6 verset 2, je répète, Galates 6 verset 2, portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. Ça ne veut pas dire que vous devez les porter tout le temps, évidemment non, mais juste le temps qu'il faut pour aider la personne. Ainsi, nous portons dans la prière le fardeau de l'autre et le remettons à celui qui peut, à lui seul, vraiment à lui seul, porter tous nos fardeaux. Et ainsi, nous ne retomberons plus dans la dépression. Dieu nous en préserve. Vaudrait-il que nous perdions plaisir et force? Voudrait-il vraiment le Seigneur que nous allons perdre tout plaisir et nos forces? Certainement pas. Certaines fois, nous ressentons cette force qui se dégage de nous, telle que notre Seigneur l'a eu ressentie, selon Saint Marc chapitre 5, verset 3. Et nous ressentons aussi le poids, oh oui, le découragement et le désir d'être encore plus proche de Jésus-Christ. Combien de temps devrait-on prier pour cette personne qui a tellement besoin du Christ? Et combien de temps devrait-on la voir? Eh bien, il n'y a pas de règle fixe pour cela. Heureusement. Bien sûr, on peut le comprendre. Nous voudrions la voir plus d'une fois, évidemment. Vous devez donc vous tenir au fait que Jésus-Christ vous a guéri. Et c'est ce que vous devez dire. Jésus-Christ vous a guéri, croyez-le. Et une telle phrase en avance sur la foi serait parfois, peut-être, dans certains cas, trop demandée. En général, cette personne, elle revient et vous parle de ses nouvelles sensations de vie et de liberté et y ajoute peut-être ceci. Eh bien, je me sens très calme, mais il se peut aussi qu'elle dise « ça ne va pas beaucoup mieux, mais plutôt en s'empirant, me semble-t-il. » Alors il faut l'accepter ainsi, et dans aucun cas, il faut lui montrer de l'inquiétude ou de la déception. Soyez toujours positif. Si quelque chose de ce genre arrive, heureusement ça n'arrive que rarement, alors dites quelque chose dans ce genre. Voyons voir, au début, comment vous sentiez-vous? Ça avait l'air d'aller mieux. Bon, alors, cela prouve qu'il y a une force, une puissance en vous et qu'elle fait donc effet. On va simplement essayer qu'elle dure un peu plus longtemps pour que vous ne vous sentiez pas à nouveau mal. Il faut donc l'essayer encore une fois, car on peut recevoir plusieurs fois la lumière de Dieu en nous, comme on peut prendre un médicament plusieurs fois. Alors revenez dans 3 jours, ainsi on empêchera que cela s'aggrave à nouveau. Il est encore trop tôt pour débattre avec les problèmes et les péchés de cette personne. Mais le temps viendra, si la personne vient de sa propre volonté, Peut-être quelqu'un dira « Oh, je me sens comme nouveau-né » et ce sentiment déplaisant qui était avant a totalement disparu. Et que s'est-il passé juste avant que ce sentiment disparaisse? Eh bien, voyez-vous, mon mari et moi, etc., etc., et c'était avant le déjeuner. Je crois qu'on était tous les deux un peu de mauvaise humeur. Et là, voilà la première leçon dans la vie d'un chrétien. C'est le pardon. Et oui, c'est de cette manière qu'on devient, après qu'on a été le receveur des demandes et des espoirs, qu'on a été le conseiller ou l'éducateur, quelqu'un qui prie consciemment ou pas, fait preuve de compassion. Je répète, faites preuve de compassion. Et quelqu'un qui croit au Christ et qui conseille consciemment ou pas, par exemple une autre personne, bien sûr, alors vous lui redonnez une force d'esprit, même s'il n'est pas conscient de cela. Alors nous vient alors cette question à l'esprit. Combien de temps doit-on porter cette âme qui renaît à une nouvelle vie afin qu'elle ne retombe plus dans ses anciens tourments? Eh bien, tous ceux qui se préoccupent des âmes, j'entends par là toutes les personnes qui font quelque chose dans cette direction-là, et qu'ils soient laïcs, qu'ils soient un prêtre ou un pasteur, ils se sentent peut-être alourdis par le poids, car on leur en demande beaucoup trop, ou peut-être ne veulent-ils pas plus de liens ou encore davantage de responsabilités. Ils en ont déjà bien assez. Mais pour que la personne ne se sente pas rejetée, on ne doit en aucun cas terminer brutalement, je dis bien, ce lien de la guérison. Bien sûr, on ne peut pas non plus porter continuellement le fardeau de cette personne, cela va sans dire. J'ai souvent réalisé que ce problème se résout de lui-même lorsque j'appris à mes protégés la manière dont ils pouvaient, eux, prier pour les autres. On peut commencer très tôt, si surprenant que cela soit. Généralement, environ après le troisième entretien, on nous demande « Voyons, est-il possible que je puisse autant aider les autres, moi aussi, que ce que l'on m'a aidé ?» Eh bien, ma réponse est toujours « Bien entendu, oui !» Et si certains me disent qu'ils ne vont pas encore assez bien, eh bien, ma réponse reste absolument la même. Ils peuvent tout de même aider les autres déjà, car ça va les fortifier eux-mêmes aussi. Il est beaucoup plus facile de prier objectivement pour les autres que subjectivement pour soi-même. Car en priant pour les autres, on amène ses propres problèmes devant Dieu. Eh oui, et ainsi nous ouvrons une fenêtre vers l'âme, vers l'esprit, à travers laquelle la lumière de Dieu peut enfin briller. Cela, je l'explique d'abord pas à pas dans nos assemblées, dans nos églises, s'il devait se présenter des questions. Je suis conscient que les gens ne connaissent pas suffisamment la Bible pour pouvoir en parler et l'instruire. elle n'est pas pour autant fermée à double tour. On trouve de nombreux ouvrages et commentaires précieux dans les librairies spécialisées. Et cela dit, je ne prends pas tout au sérieux, et ce que je lis dans ces ouvrages, eh bien, je en fais la sélection tant que je ne l'ai pas lu et vu dans la lumière du Saint-Esprit moi-même. Après que j'ai lu, par exemple, le texte choisi de la journée, eh bien, je le relis encore une fois, lentement. Et ceci dans le sens de la prière. Et je demande au Seigneur de me permettre de ne voir pas seulement les mots, mais de voir le sens plus profond du texte. Alors souvent le texte m'apparaît sous une toute autre lumière, tel un chemin éclairé la nuit dans la forêt. Mais tout cela est très bien trop compliqué. Il me semble que c'est un peu compliqué. C'est ce que vont dire certaines personnes, et je les comprends. Pourquoi ne pourrait-on pas inclure simplement cette personne déprimée dans un cercle de prière? Pourquoi pas? Eh bien, certaines choses vont à l'encontre de cela, car la plupart des gens sont en convalescence après une phase de déprime et ne sont pas du tout en état de porter les problèmes des autres dans leur prière. Ce n'est pas seulement que cette personne est trop éprouvée et tendue par le poids de l'autre, mais elle pourrait aussi déséquilibrer le groupe tout entier. C'est pour cela qu'il est préférable, pour le moment, qu'un petit groupe prie d'abord pour cette personne avant de l'inviter à prier. Et c'est aussi pour cela que je préfère un tout petit groupe de prière, par exemple 2 ou 3 au maximum, oui, donc 2 ou 3 personnes organisées et routinières. Il peut y avoir 2 groupes, pourquoi pas. Un grand pour tous, où tous sont assemblés, où l'on peut lire la Bible ensemble et faire de la thérapie de groupe, et un beaucoup plus petit et intensif, j'ai bien dit maximum 2 ou 3, des gens choisis et élus qui accomplissent la prière pour les autres. Ceci est une introduction pas à pas pour la guérison d'une âme moyennement malade. Mais il est naturellement impossible de faire des calculs pour un humain ou même pour Dieu dans ce domaine global. Certaines fois déjà, avec la première prière, eh bien, il se passe quelque chose que l'on pourrait interpréter comme une sorte de résurrection. Chers amis, j'aimerais citer un exemple. Une jeune femme qui avait entre 17 et 20 thérapies de choc derrière elle. Vous avez bien compris, dans la psychiatrie. Elle me fut présentée, il y a très longtemps de cela, par sa sœur. Toute sa vie, elle fut dépressive et je ne connus jamais ses véritables raisons. Elle était aussi diabétique et avait essayé de se suicider 2 fois. Comme elle était visiblement trop renfermée pour une discussion, je priais simplement avec elle et sans que je sache quoi que ce soit sur la nature de ses problèmes. Alors, elle était assise là, elle était assise dans mon salon sur une simple chaise. Et alors, je lui dis, restez là le temps que vous voulez. En attendant, je vais à la cuisine pour préparer un petit repas. Après 20 minutes, elle me suivit et elle me demanda, qu'est-ce qu'il s'est passé? Je n'ai pas pu bouger jusqu'à présent et quelque chose est venu sur moi. Et elle rentra chez elle comme dans un rêve. Le lendemain, elle me rappela pour me dire qu'elle allait beaucoup mieux et j'ai fait comprendre à mon psychiatre, a-t-elle dit, que je n'ai plus besoin de le revoir, de retourner chez lui. Il ne pouvait pas le comprendre, évidemment. Il s'énerva assez, on peut dire énormément, et il dit, ce psychiatre, que j'avais payé pour 20 consultations et pouvait aussi faire les 3 qui restent encore. Naturellement, j'ai dit non, que j'allais bien et qu'il pouvait garder son argent. Elle était vraiment devenue saine, totalement changée de fond en comble. Et par la suite, elle a ouvert son propre cercle de prière et elle aide maintenant beaucoup de gens avec la prière pour la guérison. Voyez-vous, ceux qui ont été aidés et qui ont bénéficié de la guérison spirituelle et aussi physique, c'est ceux-là les mieux parce qu'ils comprennent, parce qu'ils y ont passé, pour pouvoir aider par la suite d'autres qui sont dans des situations épineuses. Donc, 4 ans plus tard, cette personne, elle est revenue me voir et elle m'a dit, c'est aujourd'hui mon anniversaire. Félicitations, félicitations. Et quel âge avez-vous? 4 ans, me dit-elle. Ah, comment ça? 4 ans? Oui, frère. Vous vous rappelez donc pas? Il y a 4 ans, aujourd'hui, j'étais assise sur votre chaise dans votre salon et vous avez prié pour moi. Et ce fut mon anniversaire, car je n'avais jamais vraiment vécu auparavant. Et même son diabète était mis sous contrôle pour la diète et pour l'insuline, tant qu'elle allait bien maintenant physiquement. Mais elle n'était pas encore totalement guérie. Mais ça allait beaucoup mieux. Pourquoi? Eh bien, je ne le sais moi-même pas, mais je suis reconnaissant, croyez-moi, au Seigneur pour la guérison plus essentielle de son âme et esprit, qui est encore plus important que le corps. Cette histoire soulève donc plusieurs questions. Primo, doit-on déconseiller aux gens d'aller voir un médecin? Eh bien non, jamais. Et je ne leur conseille pas non plus d'abandonner leurs médicaments. Parfois, ils savent d'eux-mêmes qu'ils n'ont plus besoin de cette sorte d'aide. Et je suis très content de cela. Les médecins aussi, en général, croyez-moi. Et secondo, que s'est-il passé? Comment un problème ancré si profondément pouvait-il être résolu avec la simple prière pour la guérison de l'âme et de l'esprit? Je pense qu'un humain a 2 sphères où il peut y avoir des problèmes. La première, ce sont ses conditions de vie, et la deuxième, c'est la personne en elle-même. Deux femmes, par exemple, peuvent avoir les mêmes problèmes. Un père alcoolique, une mère dominatrice, ou encore un mari infidèle. Mais l'une peut surmonter cela et l'autre pas du tout. À quoi est-ce dû? Dans l'une, l'esprit est vivant, dans l'autre, l'esprit est éteint, ou du moins inactif. Il ne fonctionne plus. Nous allons terminer cette première étape par une ou deux questions délicates. Sur quelle base les raisons intérieures d'une dépression se forment-elles? Il y a une raison universelle. La lumière intérieure est éteinte, tout simplement. Quelle est cette lumière intérieure? Eh bien, si je le savais, je vous le dirais. Pour ce qui me concerne, eh bien, pour moi, c'est le Saint-Esprit. C'est le sentiment brillant de la gloire ou le dévoilement passager de l'endroit sorti de nos mémoires et d'où nous sommes issus, donc le sentiment de l'immortalité, notre résurrection avec le Christ, par exemple. Mais je sais qu'il y a en nous un point, un centre de la vie qui illumine notre vie tout entière. Et si cette lumière s'éteint, on s'enfonce intérieurement dans le noir. Et c'est pour cela que la prière pour la guérison des âmes est donc tellement importante. Nous connaissons maintenant le problème primordial, alors ne prions pas dans le vent et ni superficiellement, mais prions dans la certitude que la lumière de Dieu réveillera celle ou celui qui dort, qu'elle réveillera des morts et lui donnera la vie. Chers amis, nous allons donc terminer cette première étude par la prière ensemble. Prions maintenant. Ô notre Dieu, qui est plus disposé à donner ton Saint-Esprit à ceux qui l'invoquent que le plus tendre père à satisfaire au désir de son enfant, daigne, selon ta promesse, remplir toujours plus par lui, le Saint-Esprit, notre cœur de ta présence. Accorde-nous-en, Seigneur, une mesure plus abondante, et comme un nouveau baptême, et après nous avoir sauvés par ta pure grâce, par le sacrifice de notre Sauveur, sanctifie-nous pour ton service. Que ton Esprit Saint lui-même explique ta sainte parole à nos cœurs, et que la sagesse humaine se taise devant la folie de la croix. Que cet Esprit qui nous a appris à crier « Abba, Père » et qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes tes enfants, éclaire par ses clartés divines tous ceux qui vivent encore dans les ténèbres, afin que, reconnaissant leur état de péché et de perdition, ils se jettent dans tes bras, ô notre Seigneur, et ne trouvent de repos que dans tes compassions infinies. Qu'ainsi ce jour soit pour nous un jour de consolation et de vie. Demeure avec nous. Dieu vivant, nous t'ouvrons nos cœurs. Ô viens, viens les remplir de toi-même, et sois avec nous pour nous conduire dans toute ta volonté, au nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et chers amis, je vous mets un ou deux chants. Ces chants sont, on peut bien dire, du passé, il y a plus de 50 ans. Et c'était quand j'avais fondé une mission sur cassette. Alors vous comprendrez que la qualité, elle est très douteuse, car il y a tellement longtemps, ça s'est usé. Mais l'essentiel, c'est d'en recevoir quelque chose dans notre cœur. Que le Seigneur vous bénisse dans tout votre vie, dans tout ce que vous faites. Et rappelez-vous que personne ne vous aimera autant que votre Seigneur Jésus-Christ, votre Sauveur et Seigneur. À bientôt à nouveau pour la deuxième étude. Je vous mets donc quelques chants, comme je vous ai dit, il y a hélas plus de 50 ans.
Each time I touch a rose petal and breathe the sweet fragrance it breathes, I know there's a God up in heaven. No human could create these things. The dogwood, the oak, and the willow, so gracefully wave in the breeze. The dogwood I'll always remember. My Lord died upon one of these. The sunset in its golden splendor, such colors no artist can do. I know when I look on its beauty, each page in the Bible is true. No picture or painting can capture the beauty of any of these. The handwork of God is revealed in the flowers, the sunset, the trees. Of an angel breathing a lesson unheard, hope with a gentle persuasion whispers her comforting word. Wait till the darkness is over, wait till the tempest is done. Hope for the sunshine tomorrow after the darkness is gone. Welcome, my boy. dusk of the twilight. Dim be the region afar. Will not the deepening darkness brighten the glimmering star? Then when the night is above us, why should the heart sink away? When the dark midnight is over, watch for the breaking of day. Whispering hope, oh how welcome by my heart in its song.